Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va mal pour la Pinacothèque de Paris, nous apprend Beaux-Arts Magazine. Le musée, qui accuse un déficit de 2 millions d'euros, a été placé en redressement judiciaire début novembre, a confirmé à la Croix son président, Marc Restellini. Une baisse de fréquentation de 20 à 25% depuis deux ans en serait la cause. Depuis les attentats, c'est carrément une catastrophe, rajoute-t-il. Comme nous sommes un musée privé qui n'a aucune subvention, notre budget dépend essentiellement des recettes de la billetterie et de la boutique. Un déménagement et l'arrivée de nouveaux investisseurs feraient partie des solutions envisagées. La Pinacothèque s'est en effet portée candidate pour reprendre le site Pershing près du Palais des Congrès, un espace cédé par la ville de Paris dans le cadre de l'appel à projet urbain innovant Réinventer Paris. Mais d'autant que le problème de la Pinacothèque, c'est qu'elle n'a pas de collection à céder. Contrairement à Luigi Brugnaro, le maire de Venise, nous apprend encore Beaux-Arts Magazine, pour éponger la dette de la ville, souhaite vendre des tableaux du musée K. Pesaro, Judith de Klimt et le rabbin de Vitebsk de Chagall. Colère immédiate du ministre des Biens culturels italien qui a rappelé tout de même que les œuvres des collections publiques sont inaliénables et pendant ce temps, les œuvres des collections privées sont exposées dans des lieux tout à fait publics. D'Aix-en-Provence à Reims, en passant par le musée Marmottan-Monet à Paris qui expose, après la fondation de l'Ermitage à Lausanne en 2011, la collection de Eddy et Arthur Anloser, la figure du collectionneur éclairé est partout cet hiver, constate Cécile Jaurès dans La Croix. Comment expliquer un tel engouement? Les conservateurs trouveraient-ils dans ces ensembles de qualité muséale un vivier d'exposition clé en main, facile à monter? Loin s'en faut. La charge affective des pièces, devenues des souvenirs de famille, pose parfois des questions diplomatiques. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, chacun doit pouvoir se reconnaître dans le propos et la sélection des œuvres. Certaines ne sont ni référencées ni cataloguées. Il faut trier, organiser des campagnes photographiques, rappelle Sylvie Wurman, la directrice de la Fondation de l'Ermitage. Selon elle, les collectionneurs constituent de formidables passeurs vis-à-vis du grand public. Au printemps dernier, par exemple, le regard encyclopédique porté par le banquier suisse Jean Bonnat sur l'art du dessin a permis d'en raconter l'évolution de la Renaissance au XIXe siècle. Imaginez qu'un seul homme a rassemblé patiemment autant de chefs-d'œuvre est très émouvant pour le public. Sylvie Wurman veille toutefois à ne jamais montrer de collections susceptibles d'être vendues à court terme ou trop liées au marché de l'art afin de ne pas servir de faire-valoir. Pourtant, longtemps, les collectionneurs ont été considérés avec une certaine méfiance par les musées. Il a fallu attendre le milieu des années 1990 pour que l'on reconnaisse leur rôle d'acteur du goût, parfois précurseur, comme lors de l'exposition Passion privée, organisée par Suzanne Paget au musée d'art moderne de la ville de Paris. Contrairement aux établissements américains qui s'entourent depuis toujours d'un cocon de collectionneurs comme une promesse d'enrichissement futur, les musées français, notamment ceux qui reçoivent une subvention de l'État, doivent conserver une certaine indépendance et limiter à une quantité raisonnable la présentation de collections privées, analyse Yves Le Fur, directeur du patrimoine et des collections au musée du Quai Branly. Cela n'a pas empêché l'établissement public de rendre hommage à de grandes figures comme le marchand d'art Charles Raton ou de confier le commissariat d'une exposition sur les Dogons à l'ancienne galeriste Hélène Leloup. Une exposition devrait dévoiler bientôt les goûts de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui fut à l'origine de la création du musée du Quai Branly. Celui-ci a aussi présenté des ensembles de premier ordre, comme les armures japonaises d'Anne et Gabriel Barbier-Muller, dont l'exposition Samouraï en 2011 s'est accompagnée du don au musée d'une armure. Il faut savoir dire merci, cela encourage d'autres donateurs, assure Sylvie Ramon au musée des Beaux-Arts de Lyon, qui a salué l'an dernier le flair de Jacqueline Delubac, dont l'exceptionnel legs d'œuvres d'art moderne a transformé le destin du musée. Avec la baisse des subventions publiques, les relations entre les institutions et les riches amateurs ont sensiblement changé. Le pouvoir est passé dans les mains des collectionneurs, constate Antoine de Galbert, collectionneur lui-même et fondateur du lieu d'exposition La Maison Rouge à Paris. Certains établissements l'ont bien compris et s'efforcent de resserrer les liens avec les collectionneurs en les impliquant davantage au sein de leur conseil d'administration ou de leur comité d'acquisition. Nous avons besoin de leur expertise dans les négociations et de leur connaissance pointue des objets, assure Yves Le Fur au Quai Branly. Plutôt que de nous regarder avec suspicion, les institutions devraient nous considérer comme des partenaires essentiels, comme c'est le cas en Allemagne ou outre-Atlantique, plaide le collectionneur d'art Bruno de Charme. Si les musées français font un bon travail de conservation et d'exposition, ce sont les collectionneurs, par leur passion et leur engagement financier, qui font avancer l'histoire de l'art, au style même. À titre d'illustration, cette information livrée toujours dans La Croix par Sabine Gignoux au détour de son article sur les expositions Balthus à Rome, à la Villa Médicis et au Scuderier del Quirinal. En préparant ces expositions, Cécile Debré, conservatrice au Centre Pompidou, a contacté pour une demande de prêt le collectionneur américain Donald E. Newhouse, l'un des héritiers de Condé Nast Publications, qui possède deux toiles de Balthus, dont une grande composition au corbeau, l'un des derniers tableaux remarquables du peintre. Heureuse surprise, l'homme a annoncé qu'il allait offrir cette toile à la Fondation américaine du Centre Pompidou.